Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons notre Bible à 2 Corinthiens chapitre 8. Ce matin, je fais quelque chose qui ne peut certainement pas être classé parmi les sermons. Ce sera plus proche d'une étude biblique, mais elle est très importante et continue tout à fait notre étude de 2 Corinthiens 8. Nous parlons d'un modèle du don chrétien. C'est le troisième message de notre série sur le don. De 2 Corinthiens 8 et 9, nous avons tiré une sorte d'introduction à ces chapitres sur 4 semaines. Mais c'est la troisième fois que nous sommes vraiment dans le chapitre 8, et nous y voyons un modèle du don chrétien que l'apôtre Paul présente à l'église de Corinthe et à nous tous pour nous montrer comment donner notre argent et nos biens au Seigneur. Albert Schweitzer signalait un jour qu'il n'y a que 3 manières d'enseigner un enfant. Le premier, c'est l'exemple. Le second est l'exemple, et le troisième est l'exemple. Et c'est exactement ce que Paul fait en apprenant à ses enfants corinthiens à donner. Il leur apprend par l'exemple. Et l'exemple, ce sont les églises de Macédoine mentionnées au verset 1. Nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Les églises de Philippe, de Thessalonique et de Bérée étaient toutes 3 les églises de Macédoine qui étaient des modèles du don chrétien. Ces églises avaient appris que toute possession terrestre peut être transformée en richesse éternelle, car tout ce qui est donné à l'œuvre du Seigneur devient immortel. Elle avait appris ce que Martin Luther savait quand il disait « J'ai eu beaucoup de choses entre les mains, et je les ai toutes perdues, mais tout ce que j'ai mis entre les mains de Dieu, je le posséderai toujours. » Les Macédoniens avaient appris ce que Jim Elliot, le missionnaire bien connu martyr en Équateur, disait « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Les Macédoniens étaient des exemples pour le don. Ils échangeaient volontiers des trésors terrestres pour des richesses célestes. Et leur manière de donner nous sert de modèle à nous tous, en tant que chrétiens. Et lance toute la section sur le don chrétien, qui remplit les chapitres 8 et 9. Dans les 8 premiers versets du chapitre 8, nous apprenons des Macédoniens un grand principe. C'est que le don est la conduite des chrétiens fidèles. Tout commence par l'engagement chrétien, l'adoration chrétienne, l'amour pour Dieu, l'amour pour Christ. Il vient d'un cœur consacré. Et les Macédoniens, dont les cœurs étaient si entièrement consacrés au Seigneur, comme c'est spécifié dans cette partie précise de l'Écriture, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, montrent que c'est au cœur même de tout le sujet, comme il est dit au verset 5. Ils étaient consacrés au Seigneur, et de cette consécration au Seigneur sortait ce modèle pour le don chrétien. Le verset 5 dit « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Tout découlait de là. » Alors que nous observons la consécration des Macédoniens au Seigneur et le caractère de leur don qui en découle, plusieurs éléments sont évidents dans ce texte. Tout d'abord, leur don est initié par la grâce de Dieu. Il n'était pas simplement humain, c'était quelque chose de motivé et produit de manière surnaturelle. Le verset 1 dit « Nous vous faisons connaître la grâce de Dieu qui a été donnée à ces églises de Macédoine, ou la grâce de Dieu qui est à l'œuvre en produisant leur don. » Deuxièmement, leur don transcendait des circonstances difficiles. Le verset 2 dit « Au milieu de la grande épreuve de leur souffrance, c'est ce qu'ils traversaient quand ils ont donné. » Troisièmement, ils ont donné avec joie, même dans cette épreuve de souffrance. Leur joie débordante était visible dans leur don. Quatrièmement, donner n'était pas entravé par la pauvreté, au contraire, leur profonde pauvreté les a fait donner à déborder, très pauvres, et néanmoins très généreux dans leur don. Leur don n'était pas gêné par la pauvreté, et 5, ils ont donné avec largesse, généreusement, leur don débordait dans l'abondance de leur générosité. Ainsi, leur don est initié par la grâce de Dieu, transcende les circonstances difficiles, se fait avec joie, n'est pas empêché par la pauvreté, et il est généreux. Et nous avons déjà vu ces 5 vérités, ces 5 indications de leur fidèle engagement chrétien. Rien que dans ces 2 premiers versets, Alors nous arrivons aujourd'hui au verset 3. Et bien qu'ayant essayé, je n'ai pas pu aller plus loin que le verset 3, qui est très, très important. Certains autres versets iront un peu plus vite, mais il y a quelque chose propre à ce verset 3, qui demande notre attention particulière aujourd'hui. Commençons au verset 3 avec le numéro 6 de la liste, en disant que leur don était proportionnel. Leur don était proportionnel. Le verset 3 commence par « Je l'atteste », et à propos, par cette phrase. Paul indique qu'il le savait par expérience directe. Ce n'est pas par oui dire. Il connaît ses églises. Il les connaît bien. Les a fondées. Il a beaucoup participé à leur vie. Il connaît leurs dirigeants. Connaît leur cœur. Donc, de première main, il dit, je l'atteste. Ils ont donné, selon leurs moyens. Et voilà une phrase de plus qui qualifie leur manière de donner. Leur don était proportionnel. C'est-à-dire qu'ils ont donné selon leur dynamis, ou dynamin dans ce cas, selon leur pouvoir, selon leurs possibilités, selon leurs capacités, chacun a donné comme il ou elle a pu. Remarquez ce qu'il dit au verset 12 du même chapitre. Quand la bonne volonté existe, autrement dit, si on est prêt à donner, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Dieu ne s'attend pas à ce que tu donnes ce que tu n'as pas. Il s'attend à ce que tu donnes ce que tu as. Tout ce que Dieu demande, c'est que tu donnes selon tes possibilités. Le don doit être proportionnel. Il ne fixe pas de somme. Il ne fixe pas de pourcentage. Ce n'est pas un dixième. Ce n'est pas 15%. Ce n'est pas 5%. Aucun chiffre n'est fixé. Il est dit en 1 Corinthiens 16, 2, concernant ce même don pour ce but précis, pour les saints pauvres de Jérusalem, les mêmes dont on parle dans 2 Corinthiens 8, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Paul dit de donner selon votre prospérité, c'est-à-dire selon vos possibilités. Ils ont donné selon ce qu'ils ont pu donner. Dieu ne s'attend pas à ce que vous surchargiez votre carte de crédit pour vous pousser davantage dans les dettes. Dieu attend de vous donner selon ce que vous avez. On n'est pas censé donner une somme fixe. Ce n'est pas ce que les Macédoniens ont fait. Ce n'est pas, comme nous le verrons bientôt, ce que Dieu demande de nous, ni un pourcentage fixe. On n'est pas censé se soucier si c'est par rapport au brut ou au net. Ces questions ne sont pas pertinentes dans la discussion sur le don chrétien. On parle de donner comme on est capable de donner. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 7 sur notre liste, et le second dans le verset 3, leur don n'était pas seulement proportionnel, mais, et c'est un corollaire très important, leur don était un sacrifice. Verset 3. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Donc, ils ont donné ce qu'ils avaient, mais l'ont donné dans des proportions qui constituaient un sacrifice. Leur don dépassait ce qu'on aurait pu attendre de chrétiens pauvres comme eux. En fait, leur don pourrait contredire leurs conditions. Et je vous rappelle le verset 2, qui disait qu'ils avaient donné dans leur profonde pauvreté et dans la grande épreuve de leur souffrance. Les temps étaient difficiles. La vie était difficile. Ils avaient très peu, étaient extrêmement pauvres, en contradiction avec leurs conditions en comparaison avec leur générosité et l'abondance débordante de leur libéralité, s'oubliant eux-mêmes et oubliant leurs besoins futurs, poussés par la préoccupation, le souci, l'amour, la compassion, l'obéissance et toutes ces choses. Ils étaient heureux de se mettre dans une position de pauvreté encore plus profonde, dépendant de Dieu et croyant que Dieu pourvoirait à tous leurs besoins. Comme Philippiens 4,15 nous l'a dit la semaine dernière, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, et, avec gloire en Jésus-Christ. » Ils le croyaient. Ils croyaient qu'ils ne devaient se faire aucun souci pour ce qu'ils mangeraient ou boiraient, ni du vêtement, parce que Dieu pourvoirait à ce besoin. Ils croyaient que ce que Jésus disait en Matthieu 6 était exactement ce qu'il voulait dire, que s'il habillait l'herbe des champs et les plus belles fleurs, et s'il nourrissait les oiseaux du ciel, il prendrait soin des siens. Et c'est par cette attitude qu'ils ont donné comme la veuve de Marc 12, en donnant généreusement et en se sacrifiant. Comme David qui disait « Je ne veux pas donner au Seigneur quelque chose qui ne me coûte rien. » Il n'allait pas donner à Dieu quelque chose qui ne représentait pas un sacrifice. Ils étaient heureux de dépendre davantage de Dieu pour pourvoir à leurs besoins, en manifestant de la générosité pour les saints pauvres de Jérusalem, qu'ils n'avaient jamais rencontrés, mais pour qui ils avaient une profonde compassion. Donc nous voyons, verset 3, que leur don était proportionnel. mais pas seulement proportionnel, c'est-à-dire non seulement ce qu'ils avaient, mais en se sacrifiant. Ensuite, troisièmement, ce qui serait le huitième point en total, le troisième dans ce verset. Leur don était volontaire. Et il est dit au milieu du verset 3, « Ils ont donné volontairement. Ils ont donné, littéralement, selon leur propre volonté. Ils ont donné comme ils l'ont voulu. Ils ont donné de leur propre initiative. Ils étaient motivés personnellement et spontanément. C'était leur choix. » En fait, le terme est très intéressant. « Otairetos », le terme utilisé en grec. « Ils ont donné de leur bon vouloir » signifie littéralement que c'est en choisissant soi-même sa ligne d'action. Ils ont choisi de le faire. On ne les a pas forcés. On ne les a pas manipulés. On ne les a pas intimidés pour qu'ils le fassent. On ne les a pas soudoyés. On ne les a pas dorlotés pour qu'ils le fassent. On ne leur a rien promis. On ne les a ni piégés ni incités par une manipulation quelconque. Il n'y a pas eu de coercition. Ils l'ont fait de leur plein gré, du fond du cœur. Mais laissez-moi creuser un peu plus. Il est possible que Paul ne leur ait même pas demandé de donner. Il se peut que, à cause de leur grande pauvreté, Paul ne leur ait même pas mentionné le sujet. Si vous regardez au verset 2 du chapitre 9, Paul dit « Je connais votre bonne volonté dans cette affaire de donner aux Corinthiens. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens, en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. » Intéressant, n'est-ce pas? Quelle est la motivation d'origine des Macédoniens? Apparemment, d'après ce qu'il dit ici, c'est le zèle des Corinthiens de la province d'Achaïe. C'est le zèle des Corinthiens qui a poussé les Macédoniens, pour commencer. Or, rappelez-vous ce que nous voyons ici, quand Paul écrit de Corinthiens. Nous avons dit qu'un an était passé depuis qu'il avait parlé de dons pour la première fois aux Corinthiens. C'est ça qu'il mentionne. Un an auparavant, il avait parlé de dons aux Corinthiens, et il avait commencé à donner. Nous venons de voir ça au chapitre 8. Ils avaient déjà commencé à donner, au moins un an auparavant. Apparemment, c'était de leur intérêt initial, en répondant à Paul, et de leur don que les Macédoniens avaient entendu parler. Quand Paul a parlé de la générosité des Corinthiens aux Macédoniens, ça a stimulé les Macédoniens à vouloir donner. Alors, on pourrait suggérer que les Macédoniens ont suivi l'exemple des Corinthiens, qui avaient commencé un an avant, et que la générosité des Corinthiens avaient d'abord motivé les Macédoniens, et qu'ils ont suivi, et peut-être que Paul ne leur a jamais ouvertement demandé de donner, sachant combien ils étaient pauvres. Ils l'ont fait librement. En suivant le modèle des Corinthiens, ils ont voulu s'impliquer, ce qui correspond tout à fait à ce que Paul dit au verset 4. C'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service, en faveur des saints. Ceci pourrait indiquer que Paul s'était retenu de leur demander quoi que ce soit, puisqu'ils avaient si peu, mais ce sont eux qui ont demandé à pouvoir participer. Ils se sont portés volontaires. Ça venait tout droit de leur cœur. Du fond du cœur, ils ont donné, librement, volontairement, volontiers. Donc, de ce verset 3, nous voyons que le don est proportionnel. Il représente un sacrifice, et le don est volontaire. Ce sont des points vraiment très importants. Comprendre ces trois points parmi les huit éléments de leur manière de donner me conduit à une petite digression, aujourd'hui, qui est absolument cruciale, si nous voulons comprendre toute cette question du don. Car chaque fois que l'on parle de don dans le contexte chrétien, il y a toujours des gens qui diront « Bon, j'ai pensé qu'on était censé donner 10%, pas vrai ? Je veux dire, c'est le genre de pourcentage chrétien traditionnel. On parle de donner la dîme, le mot dîme signifiant un dixième. L'équivalent grec de la dîme est deux kathés. Donc le dixième, c'est un terme mathématique, l'équivalent hébreu est ma'asra, c'est aussi un dixième, c'est également un terme mathématique, et les chrétiens au cours des années ont simplement pensé qu'on est censé donner 10%. Les juifs donnaient 10%, Abraham donnait 10%, Jacob donnait 10%, donc on doit donner 10%, c'est la norme durable de Dieu. Mais ça ne colle pas ici, il n'y a pas de 10% dans les chapitres 8 et 9. Il n'y a pas de 10% en ce qui concerne les Macédoniens. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Ils ont donné, en se sacrifiant, ce qu'ils pouvaient. Et ils l'ont fait librement. Ce qui veut dire qu'ils ont choisi la somme qu'ils voulaient et désiraient donner, et l'ont donné. Nulle part ici, il n'y a d'ordre de donner 10%. Ce qui nous amène à la question. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui pensent-ils qu'il faut donner 10%? D'où cela vient-il? Et je voudrais répondre à ça, À la base, c'est parce qu'on a mal compris l'Ancien Testament. Et je me vois dans l'obligation de clarifier ce malentendu devant vous et de le corriger. En général, on raisonne ainsi, ce qui correspond à un survol de l'Ancien Testament pour le voir, et ça donne ceci. Dans la loi de Moïse, les Juifs étaient censés donner un dixième. Dans l'Ancien Testament, on dit que les Juifs devaient donner une dîme, un dixième, et nous le savons. Et puisqu'il l'a donné, alors nous la donnons aussi, bien que rien dans le Nouveau Testament n'indique que l'Église doit donner un dixième. Il n'y a pas un seul commandement dans tout le Nouveau Testament ordonnant à l'Église de donner une dîme. Cependant, les gens disent, « Eh bien, puisqu'ils donnaient une dîme dans l'Ancien Testament, c'est ce que les Juifs faisaient. Par conséquent, ça établit la norme. De plus, dit le raisonnement, Abraham et Jacob, avant la loi qui exige un dixième, avant que la loi mosaïque arrive en Exode. On remonte à la Genèse, et on a là Abraham donnant une dîme, et on a Jacob qui donne une dîme. Donc, donner une dîme transcende la loi de Moïse. Si elle existait avant la loi de Moïse, alors elle devrait exister après, puisque c'est une norme de don ordonnée par Dieu, transcendante, universelle. Le raisonnement va ainsi, et pour plusieurs raisons, ce raisonnement a de sérieuses failles. Mais laissez-moi vous en donner une qui domine. Affirmer que ce qui était en vigueur avant la loi, l'est encore après, pose quelques gros problèmes. Je ne vous donne que deux exemples. L'observation du sabbat existait avant la loi. Le septième jour de la semaine était mis à part pour le Seigneur, et s'est observé dès la création. C'est confirmé à l'époque de la loi mosaïque. Donc on a le sabbat dans la loi. On a le sabbat avant la loi. Mais clairement, on n'a pas le sabbat après la loi, puisque la Nouvelle Alliance abroge le sabbat. Colossiens 2 dit « Que personne ne vous juge au sujet du sabbat ». Romains 14 dit « L'un fait une différence avec le sabbat, l'autre estime les jours tous égaux, peu importe. Ça ne doit pas être un problème. Nous sommes déjà entrés dans le repos. Il n'y a plus d'observation du sabbat. Ce n'est pas parce qu'on observait le sabbat avant la loi et pendant que ça le rend universel. » Deuxièmement, dans la loi de Moïse, il y avait un système de sacrifice pour offrir des animaux à Dieu. C'était aussi en vigueur avant Moïse. On a des sacrifices d'animaux aussitôt que du temps d'Abel. Et bien qu'il y ait eu des sacrifices d'animaux au temps de la loi et avant, le système sacrificiel d'animaux ne se poursuit pas dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Nous n'offrons pas d'animaux en sacrifice. Donc le fait que quelque chose accourt avant la loi ne le rend pas obligatoire après la loi. En fait, très clairement, il y avait des prescriptions pour certaines choses avant la loi qui sont définitivement mises de côté dans la Nouvelle Alliance, avec la venue du Christ. Donc le raisonnement ne tient pas. Mais il y en a un qui est bien meilleur, et, écoutez bien, il dit que ce qu'on voit sur la dîme dans la loi de Moïse et ce qui concerne la dîme avant la loi de Moïse sont deux sujets totalement différents, deux choses différentes, et pas du tout les mêmes. Et nous allons voir ça de près aujourd'hui, mais en passant rapidement. Donc, accrochez-vous, car nous allons jeter un rapide coup d'œil à cette question de la dîme dans l'Ancien Testament. Ça nous aidera vraiment à bien comprendre la question du don qui est proportionnel, un sacrifice, et volontaire. C'est ainsi que Dieu veut que vous donniez. Il n'y a pas de 10%, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de somme, il n'y a pas de pourcentage. Et je vais vous le montrer en parcourant ensemble les Écritures. Revenons en arrière. Revenons à la période précédant Moïse. Nous allons voir le plan de Dieu avant Moïse, d'accord? Et voyons ce qu'on y apprend sur le don. Mais je vais vous donner deux petites choses pour mémoire. Il y a deux sortes de dons tout au long du plan de Dieu. Les dons obligatoires et les offrandes volontaires, ou dons volontaires, obligatoires et volontaires. Et nous verrons ce qui les distingue. Une fois que vous comprenez cette différence, tout devient très clair. Regardons donc ces deux choses avant Moïse. Ça nous renvoie à la Genèse, car Moïse arrive en Exode et il vient avec la loi. Donc on remonte à la Genèse, au temps des patriarches. Or, parlons du don volontaire à ce moment-là. Qu'était alors le don volontaire? Y avait-il un don volontaire comme celui des Macédoniens qui ont donné ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, du fond du cœur, sans somme précise, ni pourcentage, sans ordre, sans horaire, sans devoir particulier? Existait-il ce genre de don libre avant Moïse? Réponse, oui. Oui, il existait. Et je veux que vous compreniez comment ça marchait. C'est vraiment très important. Il y a de nombreux passages dans la Genèse où les offrandes étaient faites à Dieu. Nous le verrons. Parmi ces offrandes, je suppose que la meilleure manière de l'aborder, c'est que parmi ces offrandes, il y a eu deux hommes qui ont donné une dîme. Abraham, appelé plus tard Abraham, et Jacob, d'accord? Et ceux qui sont en faveur de la dîme disent, comme Abraham a donné une dîme, et que Jacob a donné une dîme, alors c'est la norme pour toujours. Mais il faut creuser un peu plus loin avant de tirer des conclusions hâtives. Ce qu'il faut remarquer d'important, c'est que dans le livre de la Genèse, le mot dîme, ma'azra en hébreu, signifiant un dixième, le mot dîme ne se rapportait pas à une offrande obligatoire. Elle ne parlait pas de quelque chose que Dieu avait ordonné, institué, ou que Dieu avait exigé. Il se rapporte à une offrande volontaire. Les dîmes d'Abraham, les dîmes de Jacob étaient volontaires. Dieu ne les avait jamais exigés, ordonnés. Il ne leur avait jamais donné de pourcentage, de chiffre, n'avait jamais donné de somme. En fait, il n'y a aucune loi de la sorte avant la loi de Moïse. Et soit dit en passant, le concept d'une dîme ne se limite pas à la Bible. Elle ne se limitait pas à ceux qui croyaient au vrai Dieu. En fait, le concept de donner un dixième à une divinité était une coutume païenne courante historiquement, pour des raisons évidentes. Parce qu'on a 10 orteils et 10 doigts. L'homme, à la base, a utilisé 10 comme base pour tous ses systèmes mathématiques. 10 était le symbole de la totalité, le symbole de l'achèvement. Ainsi, de façon courante, dans toutes les religions païennes, quand les adorateurs voulaient offrir quelque chose à leur divinité, ils donnaient une dîme, car elle symbolisait le don de tout, l'idée de tout remettre, la plénitude et l'achèvement. Donc 10 était le nombre courant pour les offrandes aux divinités, bien avant Abraham, et l'idée de donner une dîme n'était pas nouvelle au temps des patriarches hébraïques. De plus, Dieu n'a pas institué de donner un dixième dans le livre de la Genèse. Il ne l'a pas du tout institué, ni dans Genèse 4, ni dans Genèse 5, ni dans Genèse 12, ni dans Genèse 14, et même pas dans Genèse 28, comme nous le verrons. Maintenant, retournons voir les offrandes données dans le livre de la Genèse. La première est dans Genèse 4. Ici, vous avez, pour la première fois, une offrande faite à Dieu, la première fois. Et c'est une offrande à Dieu faite par les deux fils d'Adam, Caïn et Abel. Or, il est intéressant de noter que c'est une offrande volontaire. Dieu ne l'ordonne pas. Dieu ne la demande pas. Dieu ne l'a pas quantifiée. Dieu ne leur a pas dit ce qu'il voulait, ni combien. De toute évidence, une chose avait été révélée, et ce qui avait été révélé, c'est que Dieu demandait un sacrifice animal. C'est ce qui a rendu le sacrifice de Caïn inacceptable. Caïn porte le fruit de la terre, le travail de ses propres mains, en tant que cultivateur, comme agriculteur, comme fermier, et Dieu refuse son offrande. Dieu avait clairement révélé que quand une offrande était apportée, elle devait être un sacrifice d'animal. À part ça, il n'y avait aucune révélation, pour autant que nous sachions, sur la fréquence, ou s'il y avait un pourcentage de vos animaux qui devait être apporté, ou un pourcentage apparent de vos troupeaux qu'il fallait apporter. Rien n'est dit à ce sujet. Tout ce qui est dit, c'est que les deux ont décidé, volontairement, de leur propre volonté, d'apporter une offrande à Dieu. Caïn apporte une offrande irrecevable, parce que non conforme à ce que Dieu exige en tant que sacrifice animal. Abel apporte un sacrifice d'animal. C'est en fait tout ce que nous savons. Ils l'ont fait volontairement. Il n'y avait aucune loi universelle sur un quelconque pourcentage de leurs animaux. Évidemment, il n'y avait pas de monnaie en ce temps-là, ni d'argent. Dieu n'avait rien déclaré quant à la fréquence ou le pourcentage, rien de tout ça. On faisait ce que son cœur poussait à faire. Or, selon nos connaissances, cette première offrande n'était absolument pas liée à une dîme. Puis nous allons au chapitre 8, pour la deuxième offrande du livre de la Genèse, qui est apportée par Noé. Noé est arrivé à la fin du déluge. L'eau s'est retirée. Il sort de son bateau, et la première chose qu'il veut faire, c'est de dresser un autel, car il veut faire une offrande à Dieu. Pourquoi ? Pour exprimer sa reconnaissance et sa gratitude d'avoir survécu au déluge mondial. Dans Genèse 8:20, il est dit qu'il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Noé fait une offrande à Dieu. De nouveau, c'est une offrande tout à fait volontaire. Nous ne savons rien d'autre que ça. Il n'y a pas d'ordre d'un dixième des animaux ou d'un dixième des oiseaux. Dieu n'a pas ordonné à Noé de la faire. L'offrande est spontanée, volontaire, venant du cœur, librement. Il n'y a aucune raison de supposer que c'est un dixième de quoi que ce soit. Il ne fait qu'offrir à Dieu ce qu'il a à cœur de donner. L'offrande suivante que je vous appelle à aller regarder est au chapitre 12 de la Genèse. Et l'homme est Abraham. Il reçoit l'appel de Dieu à être un chef pour la nation, au chapitre 12, la nation d'Israël venant de sa descendance. En réponse à cet appel, au verset 7 du chapitre 12, il construit un autel en l'honneur de l'Éternel. Et encore cette fois, cela vient de la joie de son cœur, la gratitude de son cœur, l'allégresse d'être appelé à être le père d'une nation. Et il fait une offrande à l'Éternel. Il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune indication de quantité, pas de pourcentage, aucune exigence, rien n'est stipulé. Il répond librement à la merveilleuse promesse de Dieu en disant « Merci, ô Dieu », en lui faisant une offrande. Ensuite, au chapitre 13, il en refait une. Seulement cette fois, il est à Hébron, et au chapitre 13, verset 18, il bâtit un autre autel, et il fait une autre offrande à Dieu. Cette fois encore, elle est volontaire. Pas de quantité, pas d'ordre, ni précision, pas d'exigence, pas de pourcentage, pas de fréquence, rien. Maintenant, vous allez au chapitre 14, et pour la première fois, nous rencontrons le mot dîme. On le trouve au chapitre 14, au verset 18 à 20. Abraham, comme il s'appelait alors, vient de rentrer d'une guerre. Il a été en guerre contre 5 rois dans la vallée de Chavé, et il a eu la victoire sur ces 5 rois païens. Non seulement il a vaincu, mais il a réussi à prendre du butin. Il a pratiquement rapporté des quantités de leurs trésors avec lui. Sur le chemin du retour, ayant gagné glorieusement par la puissance de Dieu et amassé tout ce trésor, sur le chemin du retour, il rencontre un personnage des plus intéressants. Son nom est Melchisédek, et Melchisédek est roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, ville de paix. C'est ce que nous lisons dans Genèse 14-18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Donc Dieu vient d'accorder une victoire à Abraham. Il rencontre cet homme extraordinaire qui est à la fois roi et prêtre. Et il est prêtre du Dieu Très-Haut, qu'Abraham adore, ce Dieu qui a appelé Abraham d'Ur en Chaldée, qui lui a promis un royaume et un peuple nombreux comme le sable de la mer et les étoiles du ciel. Abraham doit tellement à Dieu pour cette promesse. Il doit tant à Dieu pour cette remarquable victoire sur les 5 rois, ce qui confirme qu'il est réellement un homme oint par Dieu, protégé par un objectif divin extrêmement important. Abraham déborde tant de joie, et il est si heureux. Et le voilà qui tombe sur cet homme qui est prêtre du Dieu Très-Haut, ce qui signifie que par cet homme, il peut offrir ses remerciements à Dieu. L'homme le bénit en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » En d'autres termes, l'homme rencontre Abraham et le bénit, et Dieu le bénit en l'appelant. Dieu le bénit en lui donnant la victoire, et maintenant Dieu le bénit par ce roi prêtre. Et la réponse d'Abraham est « Il lui donna la dîme de tout. » Abraham décide que c'est le moment de présenter des remerciements à Dieu. Alors il donne des dîmes, et c'est là que le mot se présente pour la première fois. Le représentant de Dieu était là, le prêtre du Dieu Très-Haut était là, et Abraham veut exprimer ses remerciements à Dieu pour la victoire. Que fait-il? Il donne la dîme. Dieu lui a-t-il dit de donner un dixième? Non, c'était spontané. On ne nous rapporte aucun ordre. Personne n'a dit à Abraham combien donner. En fait, écoutez, c'est la seule incidence mentionnée où il donne une dîme. Dans toutes les 160 années de sa vie, il ne l'a pas fait chaque semaine, il ne l'a pas fait chaque mois, il ne l'a pas fait chaque année. L'Écriture ne rapporte que cette unique occasion. Et à propos, le verset 20 ne dit pas qu'Abraham donna la dîme de tout ce qu'il possédait. Il ne dit pas ça. Il a donné un dixième de ce qu'il avait pris dans la bataille. Ce n'est pas le dixième de son revenu total. Ce n'est pas un dixième de ses biens. Ce n'est pas quelques dîmes annuelles. En fait, laissez-moi aller plus loin. Dans Hébreux 7:4, il est dit qu'il donna à Melchisédek cette phrase intéressante. La dîme du butin. Colombe. Bible du Semeur. Or le mot grec pour butin est akrotignon, ce qui signifie littéralement le sommet du tas, le haut de la pile, le sommet. Donc la meilleure manière de le traduire n'est pas qu'il lui donna la dîme de tout, mais la dîme du sommet de la pile. et lui a donné un dixième du meilleur, un dixième du premier choix du butin. Ça pourrait signifier qu'il ne lui a pas donné un dixième du total. Peut-être que ça aurait été trop, puisqu'il venait de 5 royaumes différents. Trop pour un seul prêtre. Il lui a donné une dîme du meilleur, un dixième du sommet de la pile, comme représentant sa consécration totale, en reconnaissance à Dieu. Ce qu'il faut voir ici d'important, néanmoins, c'est que la dîme est un acte unique dans la vie d'Abraham. On ne voit nulle part qu'il l'ait répété. C'était un acte libre, volontaire, motivé entièrement par son cœur, non par un commandement divin. Et comme je l'ai dit, c'était courant dans le monde ancien, même parmi les nations païennes, de donner aux divinités un dixième comme représentatif de la fidélité entière et totale. Ainsi, il n'y a pas de don obligatoire de cette dîme. Il s'est juste trouvé qu'Abraham a choisi de la donner parce que c'était courant à son époque et dans sa culture de le faire. Or, la seule autre mention de la dîme dans le livre de la Genèse, avant la loi, bien entendu, est en Genèse 28. Et là, vous avez Jacob qui fait un vœu. Et honnêtement, c'est plutôt un bémol spirituel pour Jacob. Vous ne devriez jamais le prendre comme exemple, sauf celui d'une attitude charnelle grossière. Il était complètement décalé. Dans Genèse 28-20-22, Jacob fait un vœu à Dieu. Il dit « Si Dieu est avec moi et me guide pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Merci beaucoup, Jacob. Est-ce seulement un peu différent d'un autre patriarche contemporain, Job, qui a dit « Même s'il me tuait, je continuerai à, quoi, espérer en lui ?» Ici, ce n'est pas du tout de la confiance. C'est du chantage. Ô Dieu, garde-moi. Donne-moi à manger et des vêtements. Ramène-moi, et je te laisserai être mon Dieu. Puis il continue en disant, cette pierre, dont j'ai fait un monument, sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oh là alors, il fera tout ce que les peuples païens ont l'habitude de faire, donner une dîme à leur divinité par reconnaissance. Mais seulement si Dieu remplit ses conditions. Vous êtes conscient, évidemment, de ce que Job essaie de faire. Il essaie de soudoyer Dieu. Hé Dieu, fais sûrement réussir mon voyage, et tu pourras être mon Dieu. Je construirai un autel, et je te donnerai une dîme de tout ce que j'ai. Il essaie d'acheter la bénédiction de Dieu, clairement, très bassement spirituel. Sa motivation pour la dîme était loin d'être sincère. Vous ne trouverez dans ce passage aucune mention que Dieu lui ordonne de donner une dîme. En fait, je pense que ce n'était qu'une action méprisable de sa part, et qui a gravement déplu à Dieu. Il n'était absolument pas obligé de le faire, et il n'y a aucun ordre dans ce sens. Ainsi, on voit beaucoup d'offrandes dans la Genèse. Résumons-les. De ces nombreuses offrandes, deux étaient des dîmes, mais toutes deux étaient des dîmes volontaires, comme toutes les autres étaient volontaires. Aucune n'avait obéi à un ordre divin. Les fois où Abraham et Jacob ont donné une dîme, ils l'ont fait de leur propre choix. Dans le récit, il n'existe aucun cas de norme pré-mosaïque pour la dîme. Il n'existe aucune norme de ce genre. Maintenant, restons à l'époque d'avant Moïse, et posons-nous des questions sur le second genre de dons, les dons obligatoires. Nous avons vu les dons volontaires, qu'on fait quand on veut, et combien on veut. Il doit être généreux. Il doit être proportionnel. Il doit représenter un sacrifice. Il doit être libre, on l'a vu. Mais qu'en est-il des dons obligatoires? Une dîme n'est pas exigée. Mais y avait-il des dons obligés? Réponse, oui. Dans Genèse, chapitre 41, c'est un passage très important de l'Écriture, car vous avez là l'enseignement sur le don obligatoire, très important. Or, en Genèse, chapitre 41, Joseph est en Égypte. Il avait été vendu comme esclave par ses frères jaloux, et il a interprété un songe pour le pharaon. Actuellement, il monte en grade et finit par devenir le premier ministre d'Égypte. Mais il commence par interpréter un rêve, parce que, bien que prisonnier, le bruit a couru qu'il pouvait interpréter des songes. Alors il le fait pour Pharaon. Et l'interprétation du rêve signifie qu'il va y avoir 7 ans de récolte abondante et 7 ans de famine. Vous vous rappelez? Alors, si c'est vrai, si on va avoir 7 ans de prospérité, et les 7 ans suivants de famine, mieux vaut utiliser les 7 ans de prospérité pour mettre de côté, en vue de 7 ans de famine, pas vrai? Voilà qui est très raisonnable. Alors comment faire? Genèse 41-34. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Vous avez là, mes amis, les premiers agents de l'administration fiscale. On les appelle commissaires, dont la responsabilité est de prélever 20% de taxes sur le revenu pour le donner au gouvernement national, pour alimenter un fonds pour le bien de la nation. Durant 7 ans, recueillez une taxe de 20% de tout produit, stockez-le, et ainsi, pendant les ans de famine, vous aurez ce qu'il faudra. Les premiers impôts sur le revenu, le premier service des impôts. Et que ça vous plaise ou non, c'est Dieu qui l'a introduit, et c'était pour soutenir la nation égyptienne. 20% de taxes récoltées pendant les années grasses fourniraient de la nourriture au peuple pendant les années maigres. Or, ceci est répété en Genèse 47-24. C'est très important. Genèse 47-24 dit « Vous donnerez un cinquième de la récolte au Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir, vous, vos enfants, et les membres de votre foyer. Vous gardez les 4/5. Vous donnez un 1/5 au gouvernement. C'est intéressant, n'est-ce pas, de voir que la base d'origine des taxes était de 20%. Car c'est encore assez proche de la base des taxes du système américain, qui est très complexe actuellement. Et il n'y a pas longtemps, 20% était la base des impôts, un peu plus de 20%. C'était donc la base d'origine. C'était un don obligatoire. Tout le monde devait le payer. On gardait 4/5. On donnait 1/5 pour alimenter les fonds du gouvernement national. Mais écoutez attentivement. Le don volontaire s'adressait au Seigneur. Le don obligatoire s'adressait au gouvernement. Le don volontaire se donnait au Seigneur. Il était fait personnellement comme réponse d'amour, et il se faisait généreusement, proportionnellement, comme sacrifice et librement. Le don obligatoire était un impôt pour soutenir le gouvernement national. Très bien. Voilà pour les dons avant Moïse. On en avait 2 sortes. Des dons volontaires, ce qu'on veut, quand on veut donner au Seigneur. Le don obligatoire, une taxation. C'est la seule occasion de don obligatoire qu'on rencontre dans le livre de la Genèse. Maintenant, venons-en à l'époque de Moïse, en allant de Moïse à Jésus, le temps où la loi domine. Qu'en est-il de la dîme alors? Qu'en est-il du don volontaire et du don obligatoire? Tout est très, très clair dans l'Écriture. Je suis stupéfait que des gens passent à côté. Laissez-moi vous en parler. Parlons du don obligatoire au temps de Moïse. Vous direz, bon, il y avait la dîme. Vous avez raison, la dîme était obligatoire. Lévitique 27-30 mentionne la dîme et l'appelle la dîme du Seigneur, et parfois la dîme des Lévites. Il est dit ceci dans le Lévitique. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dans Nombre 18, elle était partagée parmi les Lévites. Que je vous dise comment ça fonctionne. 10% est demandé, une dîme de tout le pays, de toutes les semences, tous les fruits, tout ce que tu produis, y compris tes animaux, tout. Tu donnes 10% au Seigneur, et tu le fais en le donnant aux Lévites. Qui sont les Lévites? Les Lévites étaient l'une des 12 tribus d'Israël, mais c'était la tribu choisie pour être les prêtres, et pour faire fonctionner le temple, et diriger la nation. Ils étaient les vice-régents de Dieu, les vice-présidents de Dieu. La taxation d'un 1/10 était prévue pour combler les besoins des Lévites, qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient aucun territoire. Ils n'avaient pas reçu de territoire lors du partage du pays. Ils n'avaient rien pour vivre, pas de travail. Ils travaillaient pour le peuple. Ils étaient le gouvernement. Ils faisaient fonctionner la nation. Ils prenaient les décisions. Ils étaient les juges et les conseillers, les hommes de bon conseil. Et ils prenaient des décisions pour le pays. Et c'est d'eux que venaient les dirigeants pour le peuple. Il fallait les faire vivre. Alors on donnait 10% chaque année pour soutenir ceux qui dirigeaient le gouvernement. Mais souvenez-vous, Dieu dit que 10% de tout ton pays, tes semences, tes fruits sont à moi. C'est une théocratie. Une théocratie est une nation dirigée par Dieu. Une démocratie est une nation dirigée par le peuple. Et dans une nation dirigée par le peuple, qui est une démocratie, nous choisissons nos propres dirigeants. Et nous les soutenons. Dans une théocratie, Dieu choisit ses dirigeants, et nous les soutenons. Et au cas où vous vous demandez à quoi ressemblerait la vie dans une théocratie, attendez le royaume du millénium. Ce sera alors une théocratie dans laquelle Christ dirige et règne, choisit ses propres dirigeants, et tous leur rendent hommage, comme à lui. Mais en Israël, on avait une théocratie. Dieu était le roi. Dieu était le chef suprême. Dieu était souverain, et déléguait sa direction au moyen de plusieurs prêtres. Et il fallait les faire vivre. Donc c'était pour Dieu, et pour soutenir son royaume théocratique. 10% de tout devait être donné. Provision faite que si quelqu'un devait donner de l'argent à la place de semences et de terres, on pouvait le faire. Mais on ne pouvait pas donner de l'argent pour remplacer des animaux, et des prescriptions pour ça sont indiquées dans le Lévitique. Mais la seule chose à savoir est que la première dîme était de 10% de ce que le peuple produisait, et des animaux, et qu'elle appartenait au Seigneur. Ce n'est pas un don volontaire, c'est un don obligatoire. Et si on ne le donnait pas, on volait Dieu. Malachie 3.8 dit « Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous ne m'avez pas donné les offrandes que j'ai ordonnées. C'est du vol. La dîme était donc donnée aux prêtres pour leur subsistance, à cause de leur responsabilité religieuse. Ils étaient dans ce ministère à plein temps et n'avaient pas d'occasion pour gagner leur propre vie. Et dans la théocratie, ils dirigeaient à la place de Dieu et ont payé le salaire de ceux qui dirigeaient le pays. C'était une sorte d'imposition. C'était simplement une imposition. Ainsi, les Israélites donnaient 10%, mais pas 10% seulement. Dans Deutéronome 12, il y avait une deuxième dîme. Chaque année, ils devaient donner une deuxième fois 10%. Nous lisons ceci dans Deutéronome, chapitre 12. Il y a plusieurs versets. 10, 11, 17 et 18. Je vais sauter de l'un à l'autre. Vous allez passer le Jourdain. Et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Il parle de Jérusalem. Vous serez à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Et son nom réside à Jérusalem. Donc, ce qu'il dit, c'est que vous devrez apporter toutes vos offrandes, tous vos sacrifices, toutes vos contributions. Vous les apporterez à Jérusalem. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, qui sont tout à fait différentes, ni tes prélèvements. C'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. Et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. De quoi parle-t-on ici ? Dieu institue toutes sortes de fêtes, toutes sortes de célébrations, toutes sortes de célébrations nationales et de cérémonies, comme la Pâque, et tout ce qu'elle avec. Toutes les fêtes juives, les célébrations et sacrifices, les offrandes, le tout. Autrement dit, la première dîme va soutenir les Lévites. La seconde est prévue pour contribuer aux fêtes religieuses. C'était comme une sorte de cagnotte nationale. Tous apportaient ce qu'il fallait. Ce qui voulait dire, évidemment, qu'il fallait des gens pour s'occuper des animaux et s'occuper des provisions en alimentation et pour préparer tout ça pour qu'il puisse y avoir ces grandes fêtes et ces grandes célébrations. C'était pour l'ensemble de la communauté, pour la communion fraternelle. C'était pour l'ensemble du culte religieux national. C'était pour garder la nation unie. Les Juifs, donc, donnaient 10% aux Lévites, puis 10% pour les fêtes et cérémonies nationales. Et les événements nationaux qui entretenaient l'unité de la nation, ce n'est pas tout. Il y avait une troisième dîme. Une troisième. Tout d'abord, il y avait la dîme des Lévites, puis la dîme des fêtes, comme les Juifs l'appellent. Et troisièmement, il y avait la dîme sociale. Deutéronome 14-28. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette troisième année, et tu la déposeras dans ta ville. Tous les 3 ans, il fallait donner une autre dîme. Ça se résume à 3 et 1/3 par an, ou peut-être un petit peu moins, si vous soustrayez les autres 20%. Mais tous les 3 ans, il devait donner 10%. Donc ça revient à environ 3% par an. Et c'était pourquoi? Pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. On l'appelait la dîme des pauvres. On a la dîme des Lévites, la dîme des fêtes, la dîme des pauvres. 10%, 10% et un peu plus de 3%, totalisant 23%. Que c'est intéressant. La taxation demandée pour la théocratie était de 23%, pas bien loin de la taxation d'Égypte, où il fallait donner 20%. Donc ceux qui disent que les Juifs donnaient 10% ont tort. Ils ne donnaient pas 10%. Ils donnaient 10%, 10% et encore 3, et un tiers de pourcent, chaque année, pour renflouer le gouvernement national. C'était un don obligatoire. Autrement dit, il y avait une taxe pour les fonds du gouvernement. Le gouvernement était là pour les guider vers Dieu, pour les protéger, pour fournir une armée pour leur sécurité, pour trouver des ressources pour eux, pour créer le caractère social de la nation, et la maintenir unie comme un grand peuple engagé dans les cérémonies religieuses, et pour faire face aux besoins des démunis parmi eux. Ainsi, on avait la dîme des Lévites pour le gouvernement, la dîme des fêtes pour la communauté proprement dite et la vie religieuse du peuple, et la dîme des pauvres comme système social. Tout ça n'est rien d'autre que de l'imposition. Écoutez-moi. Avant Moïse, le don obligatoire était de l'imposition. Au cours de l'époque de Moïse, le don obligatoire était de l'imposition. Il ne doit jamais être confondu avec ce qu'on donne au Seigneur. Ce sont des dons qui doivent soutenir l'institution de Dieu, qui est un gouvernement humain. Et à propos, le juif n'est pas tout. 23% n'était pas tout. Nous avons comme base de taxes environ ce chiffre ici. Mais nous avons plus de taxes que ça. Nous avons des taxes sur le gaz, et des taxes sur les ventes, et nous avons des taxes sur le chiffre d'affaires quand nous faisons des bénéfices, des taxes foncières et tout le reste. Ce n'est pas vraiment nouveau. Les Juifs en avaient aussi quelques-unes de ce genre. Saviez-vous qu'ils étaient en fait imposés sur de bénéfices? Il y avait une taxe sur la participation aux bénéfices. Ce n'est pas ce que vous pensez, mais on le trouve en Lévitique 19, 9-10. Voici leur taxe sur la participation aux bénéfices. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. Les champs étaient disposés en carré avec des coins, et quand ils moissonnaient, ils ne devaient pas prendre les coins. Ils devaient les laisser non récoltés. Pourquoi? C'était le plan de participation aux bénéfices. Les pauvres pouvaient venir et moissonner les coins du champ laissé, et ainsi profiter de l'abondance. Et ils pouvaient aller d'un champ à l'autre et prendre part ainsi à la récolte. Il est dit, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Autrement dit, en avançant dans la moisson, quand tu récoltes, ramasses, et que tu mets ta moisson dans un char, et que tu l'attaches, tout ce qui tombe, tu le laisses. Tu ne dois pas le ramasser, parce que le pauvre peut venir glaner dans les champs. Souvenez-vous, c'est ce que faisait Ruth. Il est aussi dit que tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. C'est-à-dire que si une grappe tombe, ne la ramasse pas. Tu la laisses là pour les pauvres. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Tu donnes une part de ton bénéfice aux pauvres. Donc il devait aussi faire cela. Et dans Néhémie 10, verset 33, il fallait aussi payer 4 grammes d'argent par an pour acheter de quoi faire des offrandes et pour la construction du temple. Ajoutez encore ceci. Exode 23, 10, 11. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ta terre. Mais la 7e année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Donc tous les 7 ans, ils n'avaient littéralement aucun revenu de source naturelle. Ils devaient renoncer au gain de leur terre de toute une année pour la laisser reposer, pour que le sol se renouvelle, pour pouvoir bien produire à l'avenir. Donc ils payaient 10%, 10%, 3%, les coins du champ, les glanures, 4 grammes d'argent en taxe du temple, et laissaient la terre se reposer tous les 7 ans. C'est bien loin de 10%. 25% et plus semble être le don obligatoire pour un juif de la théocratie. Ce n'était pas là un don volontaire. C'était de l'imposition. C'était du don obligatoire. Je vais le répéter. Tous les dons obligatoires avant Moïse et pendant la loi mosaïque étaient là pour alimenter les fonds du gouvernement national. Maintenant, tournons-nous vers le don volontaire. Si ce que les juifs devaient donner était du don volontaire, en quoi consistait le don volontaire? L'époque depuis Moïse jusqu'à Jésus parle-t-elle de dons volontaires? Oui, certainement. Il y avait des dons volontaires, et il y a simplement plusieurs manières de les comprendre. Et c'est tout à fait parallèle à ce que nous sommes en train d'apprendre de la manière de donner des Macédoniens. Tout d'abord, il devait être volontaire. Il devait être proportionnel. Il devait être généreux. il devait représenter un sacrifice, et il devait venir du cœur. Laissez-moi vous dire ce que l'Ancien Testament dit des dons volontaires. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en vin nouveau et en blé, les premiers produits de leur terre, ceux qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi. Nombre 18-12. En premier, tu donnes le meilleur, et tu le prends du dessus, des premiers fruits, les prémices, ce qui veut dire le meilleur, ce qui veut dire aussi la primeur des fruits récoltés. Alors, tu veux donner au Seigneur? Donne-lui le meilleur, et donne-lui ce qui vient en premier. Donne-lui ce qui est dessus, la primeur qui arrive. Vous direz, mais je ne sais pas maintenant comment sera le reste de la récolte. Raison de plus de lui donner les prémices, car c'est un acte de foi. Tu donnes à Dieu ce que tu as, et tu crois en lui pour ce que tu n'as pas encore. Tu donnes à Dieu pour le meilleur de l'huile, le meilleur de la récolte, tout le meilleur, les meilleurs premiers fruits cueillis, et Dieu promet qu'il fera croître ta moisson. Donc la première chose, c'était les prémices. Quand la première récolte arrive, prends-en le meilleur et donne-le au Seigneur. Pas de quantité précisée, pas de fréquence, c'est une offrande volontaire. Et si tu me donnes les prémices du dessus, avant même de savoir combien tu auras, si tu me fais confiance ainsi, je t'apporterai ta pleine moisson, dit Dieu. Écoutez ces paroles en Proverbes 3:9-10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis, et tes cuves déborderont de vin nouveau. Tu ne peux pas donner plus que Dieu, c'est le même principe. Donnez, et on vous donnera. Semez abondamment, vous récolterez abondamment. Vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Vous honorez le Seigneur avec vos biens, vous lui donnerez les prémices, vous lui donnez le meilleur, ce qui est dessus, et il apportera le reste. Honorez Dieu de cette manière avec les prémices, et vos granges et vos pressoirs déborderont. C'est la promesse de Dieu. Alors, comment devait-il donner quand il donnait du fond du cœur? Volontairement, spontanément, le meilleur, les premiers fruits. Vous vous souvenez que Dieu avait dit à son peuple, par le prophète Malachi, combien il était dégoûté d'eux, parce que, quand ils lui apportaient un animal, ils en apportaient un aveugle ou un estropié, disait Malachi. C'est terrible. Ils donnaient à Dieu ce qu'ils ne voulaient pas manger ou ne pouvaient pas utiliser à la reproduction. Il donnait à Dieu l'animal boiteux, le malade et l'aveugle, les animaux dans le pire état qu'ils avaient, et il gardait les meilleurs pour eux. Par conséquent, ils se privaient de la bénédiction de Dieu et attiraient sur eux le jugement de Dieu. Donnez-lui le meilleur, donnez-lui le meilleur. Même principe en Proverbe 11:24. L'un, qui donne avec largesse, devient encore plus riche. L'autre, qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Quand vous donnez à Dieu, il envoie la bénédiction. Les premiers fruits sont un acte de foi, et c'est ainsi que Dieu voulait que ses enfants vivent, puisqu'il l'aimait et croyait en lui, lui faisait confiance, et qu'il voulait le remercier pour tout du fond de leur cœur. Il lui donnait le meilleur, il lui donnait les prémices, et s'attendait à lui pour leur répondre en envoyant sa bénédiction sur eux. Voilà le don volontaire de l'Ancien Testament. Donnez ce que vous voulez, pourvu que ce soit généreux et le meilleur. Laissez-moi vous en donner un autre exemple, et pas seulement parmi les offrandes de prémices. Mais dans Exode 25, vous vous souvenez que Moïse allait construire un tabernacle, et cela réclamait des dons spéciaux. Alors l'Éternel parla à Moïse et dit, Exode 25:1-2, « Parle aux Israélites, qu'ils prélèvent une offrande pour moi, colombe. Or voici comment il fallait faire cette offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est tout. » Dis seulement à tous de faire ce qu'ils veulent, du fond de leur cœur. C'est tout. Ici Dieu avait une occasion de préciser. Ici Dieu avait l'occasion de donner une quantité, ou un pourcentage. Tout ce qu'il devait dire, c'est « Donne-moi un dixième ». Mais il dit seulement « Donnez-moi ce que vous voulez. Donnez-moi ce que vous voulez selon votre cœur. » Parce que Dieu se préoccupe de l'attitude du cœur. Il n'y a pas de grande affiche posée tout autour du camp d'Israël disant « Avez-vous donné votre dîme ?» Avez-vous payé la dîme? On leur a dit de faire ce qu'ils voulaient. Et Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, voici l'offrande que l'Éternel vous a ordonnée, en disant, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ce que vous voulez, écoutez ceci, vous apportez ce que vous voulez, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, le nécessaire pour construire le tabernacle, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx, et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod, et du pectoral pour le souverain sacrificateur. Ensuite, il est dit ceci en Exode 35. « Que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Que tous ceux qui sont habiles et disposés viennent et apportent tout ce qu'ils veulent. C'est ainsi qu'on donne. C'est exactement ainsi qu'on faisait avant Moïse. Caïn et Abel ont apporté ce qu'ils voulaient. Abraham a apporté ce qu'il voulait. Noé, ce qu'il voulait. C'est une offrande volontaire pour le Seigneur. Les dons ordonnés sont pour le gouvernement. Et regardez comment ils ont donné. » Exode 35, 21-22. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent. Autrement dit, tous ceux qui l'ont voulu sont venus apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé. C'est répété plusieurs fois. Le principal, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Deutéronome 16 dit au verset 10 et 17 « En l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, tu feras des offrandes volontaires en fonction des bénédictions qu'il t'aura accordées. Tu donneras en proportion, généreusement, en te sacrifiant volontairement, ce que tu veux. Et il y a plus. C'est merveilleux. » Quand vous regardez dans Exode 36, les versets 5 et 6, vous lisez ceci. « Ils vinrent dire à Moïse, « Ce sont les ouvriers qui reviennent vers Moïse. » Les gens apportent du matériel, tant et plus. Et les ouvriers disent à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel a ordonné de faire. C'est magnifique. » Ils disent, « Moïse, on a un problème. On nous apporte beaucoup trop de matériel. » Et Moïse donne l'ordre que voici, que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrande pour le sanctuaire. Les amis vont surcharger les ouvriers. En apportant trop de matériel, on empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Ne serait-ce pas merveilleux? Les amis, voulez-vous, s'il vous plaît, cesser vos dons? Il y en a vraiment trop. On est débordés. Avez-vous déjà entendu une église dire ça? Mais ça vient du cœur, et c'est ce que Dieu désire. Ce que je veux dire, c'est que le don obligatoire était de la taxation avant et pendant le temps de Moïse. Le don volontaire était tout ce qu'on voulait, quand on voulait, venant d'un cœur généreux. Plus tard, au moment de construire le temple, c'est un autre exemple. Dans 1 Chronique 29, David prévoyait de rassembler tout ce qu'il fallait pour la construction du temple glorieux que son fils Salomon érigerait. Et il est dit dans 1 Chronique que David rassemble ce matériel et que le peuple se réjouit. Ce sont les versets 9 et 10 de 1 Chronique 29. Le peuple se réjouit de ses offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. C'était de nouveau l'important. Le roi David lui aussi en éprouva une grande joie. David bénit l'Éternel, en présence de toute l'assemblée. Ils avaient tous le cœur bien disposé. Et ils ont donné, ils ont donné, ils ont donné encore. Et ils ont tant donné, les amis, qu'ils ont bâti un temple monumental, dont la grandeur ne pourrait nous être décrite, ni estimée, couvert d'or. Quelque chose qui dépasse tout entendement. Au verset 16, de 1 Chronique 29, David prie, « Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Ils ont tant apporté parce qu'ils avaient un cœur si bien disposé. Eh bien, laissez-moi résumer brièvement. La dîme est un don obligatoire, mais il l'était sous forme d'imposition. Pour alimenter les fonds du gouvernement national de ce qui était une théocratie. Les trois dîmes assuraient les salaires du gouvernement, la vie sociale religieuse de la nation et un système social. Les dîmes n'étaient pas des offrandes à Dieu, c'était des dons destinés au soutien de la nation. Quand il s'agissait de donner à Dieu, aucune somme n'était indiquée. On donnait ce qu'on voulait, quand on voulait, guidé par son cœur. Le don volontaire était purement volontaire. Et motivé individuellement par la reconnaissance à Dieu et par amour pour lui. On pourrait le dire simplement ainsi, « Paie tes impôts et donne à Dieu ce que ton cœur te dicte. » Et c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament avant Moïse, et c'est ce qui se passe dans le Nouveau, du temps de Moïse jusqu'à Christ. Tu donnais ce qu'il fallait en payant les taxes, Et en plus, tu donnais à Dieu ce que ton cœur te disait de donner, car c'est de l'attitude du cœur que Dieu se soucie. C'était la norme concernant les dons dans l'Ancien Testament. Vous direz, est-ce différent dans le Nouveau? C'est exactement la même chose, exactement. Jésus l'a dit aussi simplement qu'il l'a dit partout, et que c'est indiqué partout dans le Nouveau Testament quand il en a parlé. Rendez à César ce qui est à César, que voulait-il dire? Payez vos taxes, et Jésus l'a fait, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Donnez à Dieu ce que vous avez à cœur de lui donner. Et c'est pour ça que, quand on arrive aux Macédoniens, on n'entend pas du tout parler de somme. Si vous allez dans Romains 13, vous lirez « Payez vos impôts, rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, payez ce qu'il faut. C'est un acte devant Dieu pour contribuer à l'institution que Dieu a ordonnée, c'est-à-dire le gouvernement humain. Mais au-delà de ça, le don volontaire est tout ce que tu veux, sans chiffres, rien n'est précisé, c'est comme ton cœur a envie de le faire. D'une manière unique, nous avons l'occasion, selon 1 Corinthiens 16, de le faire chaque semaine, le premier jour de la semaine, quand nous nous rassemblons. C'est un don volontaire. La dîme n'a absolument rien à voir avec ça. Le Nouveau Testament confirme ce même modèle de don, et nous en verrons plus là-dessus la prochaine fois. Bon, le temps nous a rattrapés. Prions ensemble. Père, nous espérons que nous avons pu comprendre ce simple principe qui nous permet certainement de payer nos impôts. Ce que tu nous demandes, comme tu as ordonné que ce soit fait en Égypte et en Israël, parce que tu as institué le gouvernement humain pour avoir de l'ordre dans la société, pour le bénéfice de ceux qui font le bien et pour punir ceux qui font le mal. Aide-nous même, peut-être, à avoir le paiement de nos impôts sous un jour différent, sachant qu'en le faisant, nous te glorifions et prenons nos responsabilités comme ton peuple d'autrefois. Et Seigneur, aide-nous également à comprendre qu'en ce qui concerne nos dons pour toi, c'est tout ce que nous voulons selon notre cœur, et par conséquent, c'est à la mesure de notre fidélité. Nous pensons à ces Macédoniens, dont les dons n'étaient pas influencés par leurs circonstances, ni par leur pauvreté, qui donnaient joyeusement, qui donnaient libéralement, généreusement, en se sacrifiant, et qui s'empressaient de le faire, parce qu'ils s'étaient tout d'abord donnés à toi. Que nos dons soient des dons de fidélité et d'engagement, et qu'ils puissent ressembler au modèle posé par ces chrétiens d'autrefois. Que tu sois honoré dans nos vies de manière à ce que ça se voit dans nos dons, afin que nous puissions voir se déverser sur nous les bénédictions du ciel. Pour tout cela, nous te rendons grâce. Au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.